Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance. C'est Areski Sugar qui vous parle. Pour vous dire que je suis en spectacle actuellement au Théâtre Beau-Saint-Martin à Paris. Donc si vous voulez venir voir une superbe heure de stand-up, n'hésitez pas à prendre vos places. Il reste des places pour les trois dernières représentations de la saison. Le 15 juin, 28 juin et 12 juillet. N'hésitez pas à aller sur Bireduc ou suivre les liens depuis la description du podcast ou aller sur sugarfree.com. Merci à tous. Profitez bien de cet épisode. Bisous.
Je crois que les gens me connaissent. Hein. Est-ce que je suis vraiment obligé
de... renommée.
Quand même 400 abos sur...
Ok, okay bah c'est parti, je crois.
Bah, je crois que c'est parti, ouais.
C'est parti, bonjour à tous, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ouais, ça va.
Ça va bien.
Ouais, ça va, cool. Bon, ça va, bienvenue dans ce nouveau petit épisode de fin de séance, un des premiers de l'année, il me semble, non, je crois.
Oui, puisque
un peu en retard, parce qu'on est fin février quand même. Faut... voilà.
Est-ce qu'on peut encore dire bonne année?
On a du lourd cette semaine avec un petit Netflix movie avec Adam Sandler. On va débriefer tout de suite sur les Oscars puisque on vient d'avoir les news, on vient d'avoir le palmarès complet. On va parler de ça, si on était bon sur les pronostics. Déjà, j'ai vu sur la messagerie ce matin qu'il y a Avril qui commence à dire qu'il avait tout gagné, alors il va falloir réécouter les bandes parce que je
crois qu'il essaie de réécrire l'histoire en mode
ouais,
genre
je crois,
j'avais tout deviné.
Ouais. ensuite, on parlera des Césars, hein, puisqu'on a aussi nos Oscars, hein, puisque ce sont les Césars. C'est Florence Foresti qui présente, donc c'est pas la même mood. On va se présenter. On a un nouveau guest aujourd'hui pour commenter le film avec nous. Donc ici, okay. c'est Jean-Yves. On est.
Attends, il y avait une ambulance qui voulait se présenter tout de suite. Okay. Et ici, c'est Areski, comme d'habitude, et avec nous aujourd'hui,
Ellie, voilà.
Ellie, bienvenue à toi.
Merci.
Bienvenue à toi. On est ravis de t'accueillir pour parler de ciné. Est-ce que en deux trois mots, tu peux dire quel type de cinéphile tu es pour nos auditeurs? C'est quoi tes références?
Je suis un peu critique. Hein. J'ai une carte UGC, donc voilà. Je crois que je me connais bien en ciné, quoi. Je peux mettre des petites étoiles sur Internet. Je fais comme je veux.
C'est ça. Aujourd'hui, tout le monde a la parole.
Je crois. Hein. Quelque part,
c'est ça.
Je suis légitime.
Stand-upper de son état,
voilà.
Également.
Et vendeur de jambon à la sauvette, voilà, c'est à peu près...
Ton background.
Ok, ouais, bah, bienvenue à toi.
Parfait, bah, je pense que tu as toute légitimité du coup à faire partie de l'équipe fin de séance pour dire que les Oscars se sont chiés ou pas.
En fait. Je pense que j'ai quelque chose à dire là, il y a quelque chose à dire. Moi, je mâche pas mes mots, moi.
Bon, bah, très bien, bah, c'est parti. On va commencer tout de suite avec les Oscars. Est-ce que déjà, vous avez vu le palmarès?
Ouais.
Yes, j'ai vu ça ce matin.
On a vu ça.
Raz-de-marée Parasite, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est mérité?
Franchement, oui. Enfin, après, on s'en souviendra. Moi, c'était pas mon pronostic ni particulièrement mon chouchou, mais parce que aussi... j'ai l'habitude d'un gros racisme chez les Américains, en fait, ouais. Pour les Oscars. Donc franchement, à la limite, moi, au contraire, je suis très content qu'un film coréen ait pu rafler. Donc il y a eu meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur scénario original, je crois.
Ouais, c'est ça.
Et meilleur film international aussi.
Oui, c'est vrai que oui, meilleur film étranger. Oui, bon. Ouais, effectivement.
Et en plus, tu parles de racisme, et c'est marrant parce que ça va même, je pense, encore plus loin, parce que c'est le film sous-titré, quoi. C'est-à-dire, c'est un film coréen sous-titré,
ouais.
Et qui gagne un Oscar. Enfin, c'est ouf, quoi. Il n'y a pas plus réticent aux sous-titres que les Américains,
ouais.
Donc ça, c'est cool.
Ouais.
Et tu vois, j'ai appris un truc entre-temps qui est marrant, c'est que par rapport au meilleur film, puisque le film récompense plus la production en général, tu sais, le truc global du film, Et est-ce que tu savais que dans Parasite, la maison, elle a été construite pour le
exprès
film.
Exprès pour le film, ouais.
Est-ce que c'est pas fou, ça, franchement?
Ouais, ça, c'est de la folie. Mais c'est pour ça qu'on parlait de, dans le top 10 là, de prouesses d'architecture et tout ça. C'est que vraiment, ouais. En gros, le mec a pensé...
il l'avait moi, dans sa tête, il voulait
j'aime
pas...
J'aime bien, c'est vrai qu'en plus, d'ailleurs, la spatialisation dans ce film, elle est ultra bien gérée. Tu sais exactement où... Tout est. Et pourquoi, en fait, chaque personne est dans ce truc. Ouais. Toi, t'avais bien aimé, Ellie, parce que c'est vrai que nous, on en avait parlé plutôt assez longuement, justement, dans le top 10.
Je sais pas si on l'avait vu ensemble.
Je pense pas.
Hein ? Est-ce que je l'ai vu ? si, je l'ai vu. Si, si, il est bien. J'étais. Non, j'ai bien kiffé le petit twist à la fin et tout.
Et on se disait que c'était, tu vois, un film politique et pour le coup, tu vois, enfin des films de classe un peu. Alors moi forcément je le mets avec Joker et Les Misérables quoi dans les années dans les films de 2019.
Ouais, non vraiment très très bien.
Et donc du coup j'ai regardé les discours de remerciement et c'est marrant parce que du coup il remercie Scorsese. Alors du coup il dit moi j'étudiais Scorsese dans mon école de film et puis du coup il y a une espèce de standing ovation qui s'est improvisée. Enfin c'était un peu nimp. Et après il a remercié Tarantino aussi pour dire que lui pendant des années il était inconnu et Tarantino chaque année dans ses tops il disait suivez ce gars c'est le vrai. Top. Donc ça c'était un moment assez sympa. Il y avait l'Oscar de Brad Pitt qui était intéressant aussi parce que
enfin.
Ça pour Once Upon a Time donc je pense que ça les valait largement et voilà.
Ouais non mais en fait content en fait pour une fois je suis content tu vois il y a pas de choses horribles j'allais dire tu vois où tu dis non mais c'est clairement ce film il gagne juste parce que il y a une excellente campagne marketing.
Ouais, c'est ça.
Après voilà le fait qu'il n'y ait plus Weinstein avec ses campagnes marketing pour les Oscars.
Ah, peut-être que ça aide, hein. Ouais, ouais, grave.
Ça a aidé. Mais là, oui, t'as l'impression... Après, je sais pas trop, j'ai pas vu le film avec Renée Zellweger, là, pour lequel elle a gagné son Oscar de meilleure actrice.
Et moi non plus.
Elle avait déjà gagné un Oscar, il me semble, non, dans le Cold Mountain, mais c'était un Oscar du second rôle.
Ouais, je crois que j'ai lu ça ce matin.
Netflix ramène un Oscar pour la performance de Laura Dern dans Marriage Story, en second rôle féminin. Mais bon, ça reste une déception parce que je pense qu'ils espéraient avec Irishman, je pense qu'ils espéraient vraiment gagner des trucs et finalement ça n'a pas été le cas.
Ouais, qui est clairement le grand oublié du truc, c'est-à-dire que même dans les Oscars techniques, ils n'ont rien eu quoi dans The Irishman.
Ouais. Et il y a Brad Pitt pour le Tarantino, mais pareil, Once Upon a Time a rien eu de ce à quoi il pouvait prétendre. Quoi. Donc, mais bon, il y avait de la concurrence en même temps, c'est clair que cette année, il y a aussi Joaquin Phoenix c'était plié déjà 6 mois avant.
C'est
quoi.
Clair, c'était impossible à détrôner. Vraiment, tu te dis, je sais pas quel film vous allez sortir si vous croyez que vous allez être meilleur acteur que lui. Quoi. genre, t'abandonnes, tu le sors l'année d'après, tu sais.
Si tu voulais l'Oscar, t'attends.
Le seul cocorico, c'est les meilleurs effets visuels de 1917, parce que c'est des Français qui ont fait les effets spéciaux de 1917, que j'ai toujours pas vu et qu'en fait, c'est d'ailleurs pour ça que nous, on en a pas du tout parlé dans nos top 10. Tu l'avais vu, toi, Jean-Yves ?
Non, je l'ai pas vu.
Moi, je l'ai vu.
Alors ?
Il est franchement bien.
Ouais.
C'est filmé, attention en termes techniques, en plan séquence, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit.
Ouais.
Et je me suis dit, quand je l'ai vu, putain, le caméraman il s'éclate, c'est vraiment bien fait. Et après on m'a dit, ouais, c'est un film en plan séquence. Et je fais, ah ok, d'accord.
tu ne savais pas à l'avance en fait, parce que c'est vrai que le marketing a été un peu fait
autour
un
de
peu
ça.
Fait sur ça.
Okay. Il est très très esthétique le film, moi je l'ai trouvé très très beau. Après il y a des petits trucs, je ne vais pas spoil, mais surtout que vous ne l'avez pas vu, mais il y a des trucs, je dis non. Non, pas encore, on a déjà vu ça.
Ah d'accord, des choses un peu... Ouais, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a été un peu oublié des... Enfin, je sais pas. Toi, tu le mettrais dans ton top 10 2019, même si là, ça peut être un peu difficile d'en faire un...
Non.
Non, tu le mettrais pas, ok. Ouais, c'est un peu ce que j'ai cru comprendre, c'est vrai que, au point de vue scénario, que c'était un peu, j'allais dire, classique pour un film de guerre, mais que tout était placé dans... dans le plan séquence, etc. quoi. Et les effets spéciaux, du coup. Mais voilà.
Ouais, et puis le film, il n'est pas égal. Il y a des moments où c'est un peu chiant, quand même.
D'accord.
Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur les Oscars ?
Est-ce que c'est les Oscars qui vont faire que vraiment, à partir de maintenant, les gens vont se relaxer sur les films étrangers, et donc les films avec sous-titres, et qu'on va pouvoir voir parfois un petit meilleur réalisateur pour un film étranger, etc., et que ça va devenir un peu normal ?
Non.
Ou est-ce, ouais, voilà. Ou est-ce que, et voilà, je reprends toujours mes chaussures de cynique, tu vois, les mecs se disent, bon, est-ce que c'est pas l'année où on sort, où on met tout sur le film étranger Parasite, comme ça, on est tranquille pendant 15 ans. Tu vois ? Non, mais ouais, possible. Mais il faut le dire, tu vois, et qu'après, ils vont revenir à leur microcosme hollywoodien et tout le monde sera content, etc. Après, je suis désolé de le dire, mais rien que... Enfin, par exemple, meilleure actrice. Renée Zellweger, elle joue Judy Garland, tu vois. On est encore dans des trucs de... Hollywood qui parle d'Hollywood, etc., etc. Mmh. Bon, après, je dis ça, ça se trouve, elle est géniale, hein, mais...
Après, je sais pas parce que est-ce que dans cet Oscar, parce que voilà, dans le message quand même, il y a un message anticapitaliste qui est quand même assez fort dans le film. Et est-ce que c'est pas aussi un Oscar politique, parce qu'Hollywood a toujours été plus de gauche pour faire un contrepoids à Trump. Peut-être qu'il y a ça aussi. Hein, peut-être c'est juste un truc. C'est une pièce politique. Après, moi, je vais pas être aussi cynique que toi parce que même si c'est vrai, il y a un peu de ça quand même. C'est pas. C'est pas comme si le film est quand même oufissime, quoi. Donc
oui, le film
peut-être que
très,
ça
très
les
bien.
A touchés et tout cinéphile américain ou pas ne peut qu'être en admiration devant une telle maîtrise, quoi, tu vois.
Ouais, mais c'est toi qui nous avais sorti la stat ouf que, enfin, je sais pas, il y avait genre 40% de l'académie qui voulait pas regarder le film parce que c'était qu'il y avait des sous-titres. C'était pas toi?
Ah,
je
mais
l'ai
ça...
lu quelque
non,
part.
Non, c'est pas moi, mais ça m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne pas du tout. Ça, c'est...
Après, enfin, c'était à un certain moment donné, il y a un mois ou deux. Donc peut-être que, tu vois, ce chiffre a diminué et que tout le monde s'est dit non, on va quand même le regarder. Mais c'est quand même assez incroyable.
Ouais,
que,
de base,
de prime abord, les gens se disent non.
Donc tu parlais de Cocorico et moi, je mettrais une petite touche Cocorico sur Parasite, puisque Parasite est un énorme succès en France avec. Plus d'1,5 million de places pour un film étranger sous-titré. Donc ça, c'est à souligner aussi. Donc ça veut dire que c'est tout ça est possible, quoi.
Puis il y avait pas beaucoup de promos en tour en plus. Hein. Moi, j'ai pas entendu beaucoup de promos. C'est que du bouche à oreille, j'ai l'impression.
Oui.
Pas du tout. Et c'est ça qui est ouf, que ça. Je pense que le film a bénéficié d'un énorme bouche à oreille en fait. Et c'était tellement cool que ça a marché comme ça. Et il est ressorti aussi. Tu sais, il est ressorti au cinéma. Donc voilà. Moi, je pense que je me ferai peut-être la version en noir et blanc qui apparemment vaut le coup.
Ouais.
Donc à voir.
J'ai vu l'affiche poster, je crois, sur Twitter traîner pour le futur steelbook de Parasite. En 4K noir et blanc, je pense que ce sera un achat indispensable dans le futur mois. Et ce qui a bien marché en France, et c'est peut-être du coup l'année des gilets jaunes, etc., mais c'était les films politiques. Hein.
Ouais, franchement, peut-être qu'à savoir qu'il allait avoir meilleur film, ils auraient pu filer le meilleur film étranger à Misérable, quoi. Franchement, ça aurait été la moindre des choses, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est bizarre en fait d'avoir le doublon. Meilleur film étranger, parce que forcément, l'un implique l'autre à partir du moment où, enfin bref.
Ou à partir du moment où t'es le meilleur film, t'es le meilleur film de tous,
oui,
donc
oui,
même
ça.
Les étrangers. Ouais.
D'ailleurs, je connais pas leur policy de comment un meilleur film étranger peut être dans la liste des nommés pour le meilleur film tout court. Tu vois, qu'est-ce qui fait que ça transcende la barrière film étranger?
Ouais.
Je sais pas trop.
Bah, de toute façon, historiquement, ça a toujours été. La catégorie film étranger a toujours été réservée à ce type de film.
Oui.
Et donc, du coup, ça a toujours été compartimenté. Et après, est-ce qu'il n'y a pas eu ce truc de qualité qui fait que la qualité devenait telle qu'ils ont fini par dire bon, les gars, ça c'est. On est d'accord pour dire que c'est le meilleur, dans toutes les catégories.
Ouais.
Quoi. Il y a eu ce. Ça a dépassé un peu.
La langue, quoi.
Ouais, c'est ça. Alright, on va enchaîner avec le mini, est-ce que je sais pas si on peut appeler ça un débat, mini buzz du jour. Vous avez certainement tous suivi dans la foulée des Oscars l'annonce des Césars avec le fameux lapsus, faux lapsus ou vrai lapsus de Florent Foresti qui en annonçant les nominations de Roman Polanski au lieu de dire j'accuse a dit je suis accusé. Donc c'était pas assez bien joué pour qu'on y croix. mais c'est quand même passé. Donc voilà, évidemment, Roman Polanski en tête des nominations au César. Donc tout le monde, évidemment, s'est emparé du truc. Marlène Schiappa, tout le monde, les politiques, les cinéphiles, les cinéastes. J'accuse, c'est un gros succès, il faut le dire. Mais en France, je crois que c'est plus d'un un million ou un million et demi d'entrées. Ouais, enfin, c'est assez, assez gros.
Beaucoup de cons, quand même.
Donc voilà, donc est-ce que je sais pas si on va avoir le temps de faire le débat artistique, est-ce qu'il faut séparer l'homme de l'œuvre, etc. Mais au moins, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? À votre avis, est-ce que c'est un truc légitime ou est-ce que c'est un gros coup de buzz, quoi? Qu'est-ce que vous en pensez?
Eh ben, c'est marrant parce que j'en parle sur scène, ça fait partie des thèmes que j'aborde, séparer l'œuvre de l'artiste, et moi je suis absolument contre pour plusieurs raisons. Je sais pas, j'expose un peu.
Vas-y. C'est ta tribune.
Non, bah, c'est donner du pouvoir à des gens qui le méritent pas, quoi. Ce gars-là, je voulais écrire sur lui, mais c'est trop compliqué de faire rire sur un sujet aussi difficile. Ce gars-là, en 73, si je m'abuse, il a violé une fille. Ou 77. 77, il a violé une fille de 13 ans. Il a pris. Comme il est connu et il est artiste, il a pu négocier, il a eu de l'argent. Et du coup, il avait six chefs d'accusation contre lui. Il a négocié avec la famille, il en a eu plus qu'un. Il a pris que 80, et c'était viol, le dernier qui restait. Il a pris 82 jours de prison. Il est sorti au bout de 42 pour bonne conduite.
Ah, donc en fait, en premier lieu, ça avait été jugé.
Ça a été jugé, il a fait 42 jours de prison.
J'ai cru qu'en fait, le mec, c'était dès le début extradé, en fait. Non. Enfin, pas extradé, mais justement, avait fui le truc.
Non. Dans une malle, tu sais.
Ouais. Curseur de Carlos Ghosn.
Ouais, c'est ça.
Le mec qui s'est dit.
Je lui ai tout donné, quoi. Non, et après, du coup, il rouvre l'enquête et là, il s'en va. Et il prend un jet privé et tout ça. Et je me dis qu'en fait, parce qu'on lui a donné l'argent, parce qu'il est talentueux, il peut se payer un jet pour s'évader, alors que sinon, il aurait dû prendre l'avion normalement et il serait fait arrêter. Il peut payer des avocats qui l'empêchent d'aller en prison. Il peut payer la famille pour pas aller en prison. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si t'es très talentueux et donc tu deviens riche, alors t'as le droit de violer des enfants de 13 ans. Tu dis, le mec, il est vraiment très très perché et c'est dégueulasse. Et il est toujours dehors, quoi.
Du coup, sa carrière, et spécialement en France, a toujours été... Enfin, j'allais dire même à l'international jusqu'à juste ce film. Hein, parce qu'en fait, il n'y a que depuis Me Too qu'on dit arrêtons d'aller voir des films de Polanski. Ouais. Et donc, ça a touché que J'accuse. Tu vois ce que je veux dire? Personne n'a gueulé pour Le Pianiste. Personne n'a gueulé pour les autres films. Donc,
Je vérifie, mais je crois bien que c'était en 77. Donc, ça fait quand même un bout de temps.
Ouais.
Et depuis, ça veut dire que ça fait 30 ans, 40 ans qu'il est tranquille, quoi.
Ouais. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus, Jean-Yves?
Ben, écoute, c'est intéressant ce que rappelait Ellie, et je crois que maintenant il y a une espèce de distorsion parce que en fait finalement on oublie de rappeler les faits, quoi.
Ouais.
Et c'est vrai que maintenant tu vois il y a un décalage entre ce qui se passe aux États-Unis judiciairement pour lui, après en France, enfin tu vois il y a un décalage et du coup on sait plus trop comment par quel bout prendre les choses. Ouais. Et ça me rappelle ce truc marrant, je ne sais plus quel humoriste avait fait ça dans son special, tu sais, il y a un special sur Netflix où il y a un gars qui a dit que son special était réalisé par Roman Polanski.
Et c'est trop bien.
Et du coup, à la fin, il dit, mais c'est trop bien parce qu'il ne peut pas me poursuivre parce qu'il est obligé de revenir aux États-Unis pour me poursuivre. Du coup, Et voilà, donc du coup, il faut rappeler quand même que voilà, Polanski, il ne peut pas aller aux États-Unis, ça c'est clair. Quoi.
Là, il est plus que ça, il ne peut pas aller entre parcs. Que 3-4 pays. La France, il est polonais, du coup, en Pologne, il peut y rester. En France, la France a dit oui, on t'extradera pas, donc salut la France. Mmh. Et même au contraire, quand il est parti, on lui a dit tu peux venir en France comme t'as la double nationalité. C'est quand même un truc bizarre. Et il a failli se faire arrêter parce qu'il était en Suisse. En Suisse, là-bas, ils ont l'extradition, c'est OK. Et du coup, il est passé par la Suisse, il s'était fait arrêter et il a réussi à magouiller, il a réussi à repartir.
Ouais. Mais la France, c'est vrai qu'il y a une relation quand même très bizarre en France avec les agresseurs sexuels. Hein. non, mais tu vois,
Et tu sais de quoi tu parles.
Et il me couvre, le gouvernement. Non, mais tu sais, il y a ce truc très... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression de voir les espèces de responsables judiciaires ou politiques un peu graisseux et huileux, ces gars-là qui ont dit à l'époque « Oh, mais t'inquiète pas, ici, c'est pas grave, tu sais.
Ouais, » C'est ça, il dit...
C'est vrai qu'après, on passe un peu... Enfin, la France passe un peu pour des... Pour des dégueulasses, quoi.
Bah oui, c'est ça.
Près du Réunion.
Non, la défense, c'était...
Après,
il a purgé sa peine.
Mine de rien, j'accuse, ça, c'est aussi un film politique. Tu vois, on en revient à un truc. Et pour le coup, c'est un des rares films français où... Enfin, français. Oui, techniquement, il est français, hein, puisque je crois que la prod est française. Mmh. Où la France... regarde son passé historique, politique, militaire, et admet des fautes. Bien sûr, c'est un Polonais / Américain qui le fait, mais bon, bref.
En termes de communication d'événements, c'est un buzz de ouf, parce qu'en fait, il communique sur ça. On en a parlé pendant une semaine dans tous les médias. Ouais. Donc moi, je peux pas croire. Je sais qu'il faut jamais céder aux complotistes, tu vois, mais je peux pas croire qu'ils aient pas fait ça pour pas que ça leur fasse une promo de ouf pour les Césars. On sait très bien que du coup, quand il va y avoir la cérémonie des Césars, va y avoir les Fémènes devant, ça va être le gros bordel. Et du coup, ça va amplifier de ouf la lumière sur cet événement, tu vois. Ouais. Donc pour moi, je pense que derrière tout ça, il y a une volonté quand même de créer un buzz et de surcommuniquer sur les Césars pour que les gens y regardent ce qui va se passer. Parce que du coup, ça veut dire que, je crois que c'est en clair sur Canal+, d'ailleurs. Mmh. Du coup, est-ce que les gens vont pas les voir pour peut-être qu'il y a quelqu'un dans le public qui va sortir pour crier sur Polanski?
Oui,
enfin,
oui,
y a de ça aussi, tu vois.
Putain, oui, j'imagine genre Adèle Haenel, qu'est-ce qu'elle va faire, quoi. T'imagines si Polanski gagne quelque chose, il est quand même nommé. Attends, il y a eu
5 fois,
nominations, je crois.
Ouais, 11.
11, c'est quand même.
12.
12, 12. 12, c'est énorme.
Mais ça serait une bonne idée, franchement, un petit octogone, un petit UFC Adèle Haenel, Roman Polanski. Ça pourrait être, tu vois, ça pourrait être pas mal.
Non, mais c'est vrai que oui, il y a deux choses. Il y a la sortie du film, effectivement, en lui-même. Et pour le coup, moi, je dirais, alors je sais pas si ce que vous avez ressenti comme promo, mais moi, je dirais que c'est un peu comme Parasite. À part le bad buzz de Polanski, il n'y a pas eu de promo du film, j'ai l'impression.
Il y avait quand même des affiches dans le métro.
Il
n'y
a pas eu
mal,
trop, tu vois. Il y avait eu une espèce de semi-interview vite fait avec Jean Dujardin, mais comme justement.
Oui, il voulait pas
en
parler.
Voilà, on voulait parler de Polanski, ça s'est arrêté là, toute la séance de promo.
Et après, il a tout annulé. Hein.
Oui, j'imagine. Bah, t'as pas envie de devoir excuser des trucs de quelqu'un.
Alors,
mais bon, après,
alors,
il a dit.
Pourquoi il l'a fait? Pourquoi il allait dans le film?
Ouais, écoute. Ouais,
c'est
après,
soit t'assumes, soit t'assumes pas, tu vois.
Mais ça, c'est toujours très difficile parce qu'en fait, tu reviens à un individu et tu te dis genre, ok, tu peux jouer dans un roman Polanski. C'est très facile de dire, ne le faisons pas de l'extérieur, mais après, quelqu'un qui a dévoué, entre guillemets, toute sa vie à être acteur, tu lui dis, va jouer dans un film de quelqu'un que tu as peut-être... dont tu admires l'art justement depuis très longtemps, je sais pas si on serait tous capables de dire non, en fait. C'est ça,
ouais, mais si on dit va jouer pour quelqu'un qui a violé des enfants, t'y vas?
Et si c'est Roman Polanski, tu veux
dire? Ouais, moi c'est la réponse, elle est non et j'y vais pas, point. C'est pour ça qu'il faut passer par... Enfin, hop.
Mais après, là où il y a le second niveau d'analyse, c'est les Césars. C'est-à-dire qu'effectivement, les Césars, ils auraient pu se permettre de dire, bon... écoutez, le film est sorti, il y a eu un grand succès public. Pas obligé de nommer le film, en fait. On laisse passer ça, on arrête d'appuyer sur le fait que nous, les Français, on autorise ce gars. Mais non, en fait.
Et 12 fois, quoi.
Et ouais, c'est-à-dire
c'est pas un, vas-y, on le met, il a quand même fait un bon film, on le récompense, on le fait une nomination. Non, 12 fois. Peut-être que le film est bien, quand même.
De toute façon, ça va forcément être très intéressant à regarder parce que là, je revérifiais la liste de nominations et en fait, le film avec Adèle Haenel qui s'appelle Le Portrait de la jeune fille en feu, il est nominé quasiment dans toutes les catégories de Polanski aussi, tu vois.
Donc, du coup, en fait, ça va être très simple. Soit ils font gagner la jeune fille en feu à chaque fois. Et, non, mais vraiment, à chaque fois. Et là, la une des journaux, le triomphe de MeToo, blablabla.
C'est obligé, c'est sûr, tu vois autre
soit
chose passer.
Ils font pas gagner, mais
c'est
ne serait-ce qu'un seul.
Un seul, et c'est
de
mort.
Toutes ces catégories-là. Et il va y avoir des gros plans sur toute la clique qui a fait la jeune fille en feu. Et des gros plans sur Polanski. Je sais pas, est-ce que Polanski va aller à la cérémonie des Césars?
Il va se faire
ça serait
tuer.
Intéressant. Normalement, oui, hein. Je vois pas pourquoi il irait pas. Hein.
Pourquoi il irait pas? Parce que je sais pas, peut-être il va se faire attaquer par Florence Foresti.
Elle a déjà commencé alors qu'il était pas là, donc
je sais pas du tout. D'ailleurs, oui, est-ce que le faux lapsus est un prémisse d'une cérémonie qui va balancer sur sur Polanski et les agresseurs sexuels en général, tu vois.
J'aimerais bien. Hein.
Après, est-ce que tu crois vraiment que, parce que c'est Florence Foresti qui va présenter, est-ce que tu crois vraiment que Florence Foresti, elle va envoyer des grosses vannes je la vois pas, je la vois trop,
non,
je pense qu'elle
pas
est
une
trop
Blanche
mainstream,
Gardin,
en
c'est
fait.
Clair, oui.
Non. Ah oui, ça aurait été Blanche Gardin, là, par contre, oui, je pense qu'elle aurait pu
ah bah
envoyer
oui.
des grosses vannes. Oui. Mais là, Florence Foresti, ça va être du faux... Je la vois pas du tout faire des blagues vaseuses sur Polanski.
Ouais.
Non.
Parce qu'après aussi, c'est-à-dire que c'est Canal+, c'est ça. Il me semble que c'est Studio Canal hein, qui a aussi produit J'accuse. Donc si tu veux, ils vont pas s'auto-torpiller à dire genre ouais, vas-y Florence,
c'est
tu peux mettre telle vanne.
C'est pas les États-Unis non plus,
ouais,
quoi,
voilà,
c'est la France. Mais elle va avoir 12 fois l'occasion, peut-être qu'à un moment ça va la chatouiller quand même.
Ouais, je pense. Franchement, je pense qu'elle va en faire une.
Va falloir voir ça. Après tu vois, c'est intéressant parce que moi, je pense que... Tu vois, par exemple, J'accuse. Moi, je... Enfin, perso, je suis pas allé le voir.
Pourquoi ?
Parce que, avec tout ce qui se passe, c'est-à-dire, c'est la première fois que je me suis dit non, j'ai pas eu envie, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, je me suis dit, j'arrivais pas à me projeter à aimer ce film avec tout ce qu'il y a autour, tu vois. Mmh. Je me suis dit... Et c'est la première fois que ça me le fait, tu vois. Et donc, je sais pas... C'est peut-être un marqueur, je sais pas comment ça va se passer à l'avenir sur ce genre de film, mais voilà, vous l'avez vu d'ailleurs, vous, J'accuse,
non.
Ou pas ?
Non.
Moi, je dois avouer que je l'ai vu.
Ah, t'es vraiment une
effectivement.
Grosse chienne. Je l'ai dit.
En fait, j'étais parti pour voir un autre film, mais...
Oui, bon, on la connaît, celle-ci.
Genre, tu sais, je suis obligé de m'excuser, tu sais. Mais après, bon, il faut le dire aussi, c'est-à-dire que moi, en vrai, il faut que je sois réel. Je fais mon coming out de curiosité morbide, c'est-à-dire que moi j'en ai regardé des vidéos juste pour savoir de Daesh, tu vois, sur, sur internet. Donc moi, ça m'intéresse de voir des films de. Même si tu me dis Ted Bundy a réalisé un film, j'ai envie de le voir. En fait.
Oui,
j'ai envie de rentrer dans l'esprit de.
Entre deux viols, t'aimes bien de faire un bon film, ouais, c'est ça. Ouais.
Après, je dois dire, c'est un bon film, c'est pas non plus un film. Extraordinaire qui mériterait des Césars ou quoi que ce soit. Pour le coup, La jeune fille en feu et Les Misérables, mille fois plus que ça. Parfois un peu chiant, parfois d'ailleurs, Jean Dujardin, je sais pas trop dire s'il joue bien ou pas, en fait. Bref, mais oui, je dois dire que je. Parce que j'aurais détesté justement rentrer dans cette conversation. Sans avoir vu le film,
ouais.
En fait, tu vois.
Mais, ouais,
mais après, je suis d'accord, on vote aussi avec son argent. C'est comme nous, tu sais, on doit faire le tri de tous les déchets. Mmh. Et derrière, on dit à aucune usine et aucune industrie d'arrêter de polluer. En fait, arrêter de produire ces films, en fait. Ça aussi.
Mais tu sais que ça fonctionne dans l'autre sens. C'est le jour où on arrête de consommer.
Non, en fait,
que les...
c'est eux qui sont... C'est eux qui peuvent mettre de l'argent ailleurs. Je vois ce que tu veux dire, mais à un certain moment, le gars, comme il a une carrière de 50 ans derrière lui, c'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont aller voir ce film. Et du coup, comme ça devient un point de culture internationale, j'ai pas la force de contrer ma curiosité.
Mais c'est pour ça qu'il y a peut-être des instances au-dessus de nous qui devraient faire le tri, mais s'ils le font pas, c'est aussi à nous de le faire, quoi.
Ouais, mais après, enfin.
Si demain il fait zéro entrée, il reste une
semaine. Non, mais en fait,
ce que
t'es en train de vendre comme concept, c'est arrêter d'aller manger chez McDo, comme ça on aura que des légumes bio. Ça n'arrivera jamais. Mmh. C'est tout, parce que ça coûte pas cher, c'est rapide. Les gars, il y a une industrie trop grosse qui choisit ce que tu vas manger. McDo, dès demain, s'ils veulent, ils pourraient te donner que du topinambour. Ils choisissent de le faire. Ils le font pas. Pourquoi ? Parce que voilà, ils savent que ça ramène de l'argent et que toi, au final, voilà, parfois, tu vas manger un petit McDo.
Parfois.
Genre, c'est le gars avec tous ces détritus de McDo à côté, parfois, ouais.
Est-ce que du coup, après J'accuse, tu t'es senti mal un peu comme quand t'as mangé ton McDo trop vite et t'en avais trop envie ?
Alors, je sais plus. Ah d'ailleurs, quand je suis allé voir Les Misérables, je suis allé voir Les Misérables avant d'aller voir J'accuse, et c'était un matin justement à 9h. Je crois que j'en ai déjà parlé dans l'autre fin de séance. Il y a le côté où il y avait plein de personnes qui allaient voir J'accuse.
T'es à la fois un mec bien et un salaud. C'est
Le matin, et je me suis dit, ah tiens, peut-être ils vont aller le voir le matin parce que ils ont honte
d'être
vus à d'autres horaires, tu sais.
Voilà. C'est ce que t'as fait, c'est ça ?
C'est exactement ce que j'ai fait,
tu
mais à la base...
Tu as pensé à ça, toi ?
À la base, je voulais voir Toy Story 4. Genre, tu vois le décalage, sauf qu'il y a eu 15 minutes de décalage par rapport à mon arrivée, et comme à 9h15 il y avait Jacques, je me suis dit, bon, ok, je vais pas rater de Pixar, et autant voir Jacques, quoi. Mais voilà.
Toy Story 4 pour Jacques. Ouais. Deux moods, quoi.
Deux salles, deux ambiances.
Ouais, c'est dans le cas de dire.
Bon, mais ok, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez un petit truc à rajouter sur ce mini-buzz Polanski, ou est-ce qu'on peut passer à la release du jour?
Je pense qu'on peut, passer sur la release du jour. Allez. Ouais, tout à fait.
Uncut Gems, du coup, film des frères Safdie, Benny et Josh Safdie, avec Adam Sandler.
Tu dépenses mon argent partout à New York et tu fais des paris avec. Je commence à avoir de sérieux doutes.
Attends, t'es vraiment sérieux?
C'est vraiment trop tard. Howard, qu'est-ce que t'as foutu de son fric?
Howard, t'as mon fric?
Howard!
Qu'est-ce qu'il y a?
On va faire un petit tour de table, savoir ce que vous en avez pensé, on va donner des notes, et on va passer directement en discussion spoiler, parce qu'on va avoir du mal à parler de ce film sans raconter tout ce qui se passe dedans. Hein. Donc voilà, je vous écoute, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Est-ce que c'est un film à recommander? Voilà, vos impressions globales.
Eh ben, je sais pas pourquoi... J'ai apprécié parce que j'ai regardé jusqu'au bout et il fait quand même 2h15 et il était quand même minuit et quelques, donc il y a quelque chose qui m'a tenu. Mais j'ai trouvé un peu bordélique, ça parle beaucoup les uns sur les autres, je le regardais en anglais, il y a fuck à toutes les phrases. Et j'ai compris enfin pourquoi Areski m'avait invité, ça commence dans le trou du cul d'un juif, je me suis dit là il y a un message, c'est pour moi ce film. On développera plus tard, enfin après.
Ouais.
Allez.
Mais du coup, toi, t'as bien aimé ton...
Je sais pas.
Ah, tu sais pas
encore. Je sais même pas.
En fait.
Je crois qu'en parlant, on va voir si j'ai aimé ou pas.
Si t'as aimé ou pas. Jean-Yves.
Écoute, moi, j'ai adoré Uncut Gems, mais vraiment, vraiment beaucoup. J'avais déjà adoré leur film d'avant qui s'appelle Good Time avec Pattinson. Qui se passe à New York aussi, qui est un peu un film un peu énervé, caméra à l'épaule, montage rapide, un peu oppressant, tu vois. Et là, je trouve qu'avec ce film, je crois qu'ils ont vraiment trouvé leur acteur. Et ça ne m'étonne pas, parce que je crois qu'il n'y avait personne d'autre que Adam Sandler pour jouer ce personnage-là. Et en plus, il le joue vraiment très bien. Je trouve la performance de Adam Sandler exceptionnelle. C'est un gars qui est tellement talentueux que... Évidemment, alors tu vois, c'est ça, on en avait discuté quand on parlait des, tu sais, de Murder Mystery sur Netflix et de ces comédies un peu qui fait comme ça, où c'est un gars qui est tellement bon que même quand il est dans un film un peu pourri, il arrive toujours à tirer son épingle du jeu, tu vois. Et donc là, quand tu lui donnes un truc de cette qualité-là, il se sublime, il prend tout comme il faut, il porte le film. Donc moi, j'étais vraiment bluffé par la performance de Adam Sandler. J'aime beaucoup le scénario, j'aime bien de toute façon les histoires de petits malfrats, de bijoutiers new-yorkais, de paris sportifs, enfin tout ça, je trouvais que c'était vraiment très bien fait. Donc moi, je passe un très bon moment devant ce film, je suis... happé jusqu'au bout. Je tiens à souligner que je pense que c'est le meilleur film Netflix que j'ai vu à ce jour. Et donc pour moi, c'est un home run total. On a beaucoup de détails à aborder, mais pour moi, ce film, c'est vraiment une tuerie à tous les étages.
Je suis d'accord. Je suis d'accord parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que Adam Sandler est excellent, vraiment, vraiment. Là, pour le coup, voilà, si... Parce qu'il est sorti techniquement en 2019, je crois.
Ouais, c'est ça.
Et là, eh ben, en fait, en second, je l'aurais mis derrière Joaquin Phoenix pour l'année 2019, en fait.
Ouais, parce
clairement.
Le jeu est très
clair. Parce qu'il m'a bluffé, je ne m'attendais pas du tout à... Alors, on savait qu'il pouvait bien jouer dans le registre dramatique avec Punch Drunk Love, tu sais, de Paul Thomas Anderson. Et là...
Tu sais, tu m'exclus clairement de la conversation, là. Okay. Je voulais être
sûr. Mais là, moi, je le trouve meilleur que dans ce film où pourtant il avait déjà été encensé. Aussi, il faut que je dise, c'est un film qui m'a énormément stressé. Genre, vraiment,
ah oui.
C'est
oui,
un
oui,
film
c'est
ultra stressant. Après, alors déjà, dans sa forme, comme tu dis, c'est ultra chaotique. Le personnage, il prend des décisions de merde. Ouais. il a un psyché de merde, mais en même temps... On passe par toutes les phases avec ce personnage, c'est-à-dire que Howard Ratner, on l'aime bien, on le trouve très emmerdant, on a pitié pour lui, et en fait, on passe par un peu toutes les choses qu'on peut ressentir pour ce personnage, et je pense que ça, il arrive à très bien le transmettre, Adam Sandler. Mais le chaos, et puis surtout pour moi, après ça résonne avec ma fibre à moi, mais l'insécurité financière général qu'il y a dans ce film, et le fait de ne pas être posé, de toujours continuer, parce dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a un truc où il pourrait se dire bon ok, je vais faire ceci pour que ça aille mieux, il double down, c'est-à-dire qu'il va aller dans un pari de plus, le pari de trop, faire quelque chose qu'il fallait pas, ne pas discuter avec des personnes. On sent d'ailleurs que les réalisateurs, ils savent très bien quoi te montrer pour te faire peur, mais en même temps te donner une fausse piste. J'y reviendrai dans la section spoiler. Très stressant. Il y a un truc un peu bizarre. Alors, vous allez dire que je suis monomaniaque de John Carpenter parce que j'adore ce réalisateur. Et tu vas me dire, mais quel rapport avec ça ? Mais alors, déjà, la musique, je trouve géniale au synthé, qui est très carpenterienne. Mais même, en fait, au début, le générique, il est la police d'écriture, comment ça commence, etc. Ça m'a fait vraiment penser à du John Carpenter, quoi. Je me suis dit, attends, Areski, je crois que t'as trop de posters de John Carpenter. Et j'ai quand même recherché sur Internet. Et ok, je ne suis pas le seul à avoir vu cette relation-là. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce feeling années 70, 80. Mm. Alors que le film, donc c'est un film de 2019 qui se passe en 2012. Mais quand tu vois le Diamond District de New York, t'as vraiment l'impression que c'est dans les années 80,
et même,
tu vois.
Ouais, même l'image, je crois que l'image est faite années 70, quoi.
Totalement. Et alors, je sais pas si c'est... Tu sais si c'est filmé sur pellicule, Jean-Yves ?
Alors, j'étais en train de vérifier, mais je crois que... Parce que j'ai adoré la photo, je crois que c'est Darius Conji qui a fait la photo. Et... non, c'est numérique en fait, et c'est un truc qui avait déjà été vu dans Good Time. Ouais. C'est que tu sais, les scènes dans les clubs et dans les boîtes de nuit sont vachement bien filmées. Il y a un travail sur aller chercher la petite luminosité électrique en permanence en fait. Donc ce film, il est vraiment très numérique dans son esthétique.
Ouais.
Et ça marche assez bien pour joindre les deux bouts à ce que tu dis, l'ambiance 80s. Peut saluer aussi la patte Scorsese à la production, parce que dans ce film, ce qui se passe, c'est que c'est aussi un hommage au grand film new-yorkais des années 70-80, où tu sens que... En fait, c'est un film de gueule aussi. Le gars a certainement dû faire chauffer son carnet d'adresses pour aller chercher les bonnes personnes, mais je suis prêt à parier que les gars qui travaillent dans les bijouteries, c'est des vrais gars, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a, y a un côté... Il y a un côté vraiment 100% authentique, tu vois. Il y a quelque chose qui dépasse la réalité. Ce qui m'amène au deuxième coup de génie de ce film, c'est que le personnage de Kevin Garnett est joué par Kevin Garnett, hein, le basketteur américain. Il y a The Weeknd qui joue aussi, tu vois. Donc c'est vraiment, il y a une volonté de... Tu sais, ça m'a rappelé, parce que moi j'aime bien les films de sport, et tu sais, il y a un truc insupportable quand tu regardes des films de sport, c'est de voir des acteurs qui jouent des sportifs et qui sont des grosses quiches en fait. Et tu vois, genre, un acteur qui joue un footballeur, il est en permanence en train de regarder ses pieds, on voit très bien qu'il sait pas jouer au foot. Et du coup, ça te casse le truc. Et là, t'as un coup de génie de dire, voilà, je vais prendre Kevin Garnett, comme ça, je vais avoir les images de Kevin Garnett qui joue, qui met vraiment son panier à 3 points, c'est 100% authentique, tu vois.
Et il joue bien,
en plus. Et pareil avec The Weeknd. Il joue super bien.
Ouais.
Et là où ils sont super malins, c'est qu'ils arrivent à... Parce qu'un personnage qui est vachement bien dans ce film, c'est l'acolyte, en fait, de Kevin Garnett, dont le job est un peu de faire dépenser de l'argent aux stars, tu vois. Ouais. Et du coup,
non, spoil,
c'est vachement malin parce que Kevin Garnett, il joue pas... Il joue juste ce qu'il faut, donc ça montre le côté virtuose de ces deux gars qui savent jusqu'où tu peux filmer le gars pour que ce soit bien, un peu comme LeBron James dans le film de Judd Apatow. Donc c'est ça qui est vraiment bien dans ce film, c'est le côté authentique, quoi.
Ouais.
Et puis comme toi, j'ai été vraiment très stressé. C'est vrai que t'as raison, le côté insécurité d'argent, enfin c'est insupportable, quoi. Enfin vraiment
ce qui est paradoxal, parce qu'en vrai il est riche en fait. C'est-à-dire qu'il a, je pense qu'en vrai, il est solvable dans le sens où il a une maison, il a un appartement à New York, il a énormément de choses matérielles en fait qui valent de l'argent.
La Mercedes.
C'est juste que, ouais, il est, et c'est ça, c'est tout le principe du film, et d'ailleurs qui est réexpliqué dans une scène qui, il me semble, a été un peu dans la bande-annonce. C'est tout, il est addict au win. Il est addict au win au point où il s'en fout totalement de régler ses dettes, en fait. Lui, c'est, l'important, c'est juste d'entrer dans justement cette insécurité lui-même pour avoir le frisson de gagner. Et c'est pour ça qu'il se met un peu en parallèle avec Kevin Garnett, dans le sens où, en fait, c'est des athlètes, tous les deux, chacun dans leur monde, quoi.
Ouais, c'est ce qu'il dit. Il dit, moi, mon sport, c'est ça. C'est ouais. De gagner de l'argent et de trouver les trucs pour gagner de l'argent. Il lui explique bien que lui, il est bon aux 3 points. Enfin, il est pas bon aux 3 points, il est bon dans la raquette, quoi. Et que lui, son sport, c'est de trouver des trucs pour les revendre.
Est-ce que on note et on passe en spoiler?
Yes, parce que...
Allez, c'est parti. Bah, moi, je mets 5 sur 5, rien
ouf,
à foutre. Ouais.
Ouh là là, un petit 5 miam, là, dans l'histoire. Écoute, moi, je vais mettre 4 miam et une frite pour ce film.
C'est précis, hein.
Encore une fois, vraiment très bon. De toute façon, dès que ça a 4 miam, c'est vraiment des films que... Vous pouvez directement aller regarder, quoi.
Voilà, si c'est validé par Risky Sugar, direct. Hein,
okay. Toi.
Moi, je mets un 3,5.
Pour, 3,5, ouais, 3,5, c'est 3, très honorable.
3,5, ouais.
Ouais. Tu le recommanderais ?
Je sais pas. J'ai trouvé très prenant, et ce que vous disiez tout à l'heure, on est tout le temps en stress et tout ça. Et ils aiment bien... On avance là, on peut spoiler.
Tu veux qu'on commence à... Bah écoute, on a qu'à dire qu'à partir de maintenant... On spoil, donc passez à la section suivante si vous voulez pas entendre tout ce qui se passe dans Uncut Gems. Oui, du coup, vas-y.
C'est ce que tu disais tout à l'heure, tout le temps, il y a des gens qui viennent lui demander de l'argent et on sait pas quand ça va péter. Il y a deux mecs, on sait pas trop ce qu'ils foutent là avec les cheveux blancs et tout, ils viennent le voir 10 fois. On voit qu'ils vendent la chaîne en or avec Michael Jackson, ouais, la croix avec Michael Jackson. Il a. Vous voyez ce moment où il la remet prêt au gage ou un truc comme ça?
Ouais.
Et après, on voit l'autre mec qui vient pour aller la chercher. Ah, okay. Plein de fois, il y a ça où on dit putain, il va se faire péter la gueule, ça va lui arriver et tout ça. On te met plein de.
Mais c'est ça les fausses pistes. Moi, je croyais vraiment qu'à un certain moment, quand. Donc, à la fin du film, quand tout va se jouer sur un gros pari, je pensais vraiment que la fin du film, ce serait tout se passe. Parfaitement, et que ce sera justement un de ces deux petits vieux à qui il doit guillemets, 30 000 dollars qui viendrait avec un gun parce que il l'a trop.
Ça faisait trop longtemps.
Ça faisait trop longtemps et qu'il les a trop menés en bateau. Et en fait, je trouve ça très intelligent parce qu'ils connaissent les façons de faire des films, justement, pour prendre le contre-pied de ça. C'est-à-dire qu'ils prennent vraiment leurs spectateurs pour quand même un petit peu des cinéphiles parce que. Attends, c'était dans quoi dans quel film qui, au final, tu sais, où le protagoniste se faisait tuer par un mec un peu secondaire à la fin du film? Ça te dit rien, Jean-Yves? Il y a un côté un peu genre l'impasse ou un truc comme ça, où c'est pas le gars que tu crois qui va se
tuer, tu sais jamais d'où ça vient, quoi. Ça peut venir de n'importe où, et il y a ça dans ce film, et ça ajoute au stress, il y a ce côté insupportable de pareil, tu sais, la scène qui est insupportable, c'est la scène des enchères, tu sais, où il dit à son pote, là, vas-y, fais monter les enchères.
Tu sais où ça va,
et toi, t'es genre devant ta télé, devant comme un match de basket, tu sais, genre, non, mais stop, ça suffit, tu vois. Ouais.
Mais oui, mais c'est ça. Et c'est que des décisions de merde à chaque fois. Il cul de la main. Et en fait, au point où à la fin, quand même il vend l'opale à 175 000 dollars à Kevin Garnett, tu te dis putain, c'est vraiment dommage parce qu'il perd pas mal d'argent en fait quand même dans tout ça, mais presque t'es content parce que tu te dis bon, au moins tu vas pouvoir, j'imagine, un peu repayer les gens qui veulent littéralement te tuer. Et non, c'est-à-dire le mec, il part à Kevin Garnett et il se chauffe tout seul. C'est-à-dire que lui, il essaye de pump up Kevin Garnett en disant « Ouais, t'es un athlète, tu vas réussir. » Et il se chauffe tout seul à se dire « Tu sais quoi ? Tout cet argent que tu viens de me donner, non, je vais pas l'utiliser pour survivre, je vais l'utiliser pour faire un truc qui a, genre, une chance sur 1 million de... » Enfin, bref.
Ouais. Bah, c'est marrant, les 175 000, finalement, il lui dit qu'il lui donne 165 000 parce qu'il a payé son pote. Mm-hmm. Et quand elle arrive au Paris, il y a que 155 000.
Ah.
Alors, c'est peut-être des histoires de chiffres, mais moi, je me demande où sont passés les 10 000.
Les 10 000, ouais, je pense qu'il ne les a pas mis dans le sac, je pense.
Ouais, je sais pas où ça part. Et c'est pas... Par contre, il y a deux, trois petits trucs, moi, qui m'ont gêné. Le fait qu'il fait un premier pari, avant, qu'il gagne. Et ouais. En fait, il n'est pas validé.
Oui.
Mais là, pour le deuxième pari, c'est quelque chose comme 155 000 et il gagne 1 200 000, ouais. Quelque chose. Donc, c'est multiplié par 10, facile.
Ouais.
Ouais, c'est ça. Et donc le premier pari, c'était à peu près la même chose, je crois. Hein. Il pariait sur beaucoup.
Alors je sais pas, parce que le premier pari, il le fait avec un bookmaker non officiel.
Ouais, ok.
Avec des, je sais pas quels sont les taux, etc.
Mais il surtout, met quand même 21 000 dollars dessus. Et
même plus
et...
40 000, parce qu'en fait, il a rajouté 19 okay. 000 et qu'il avait déjà mis 20 000 dollars, mais qu'il a été annulé du coup par Arnaud. Ouais. D'ailleurs, oui. Juste pour dire, Eric Bogosian, j'adore cet acteur. Il est vraiment très très le mec qui joue Arnaud, donc qui joue
oui.
Un peu le.
Il est bon lui. Ouais.
C'est marrant parce qu'il il fait rien et il est très bon, sans trop rien faire.
Oui, il a un charisme, il ouais. Est dessus d'un truc. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que moi je le connais plutôt de séries comme dans Billions, etc. Où pour le coup, voilà, t'as le côté alpha, je suis milliardaire, etc. Et là, c'est marrant comme. Il arrive, en sans trop dire de choses, à jouer un peu cette nuance parce qu'il est un peu, il est un peu gêné par la violence, tu sais. Il ne veut pas que ça aille trop loin. C'est, je trouve qu'il le joue très très bien, ouais. Comme le mec à qui on doit de l'argent. Ouais. C'est le beau-frère, donc il ne veut pas non plus, tu vois, pourrir la famille. Et ça, oui. D'ailleurs, génial quand tu découvres qu'ils sont tous de la même famille. C'est incroyable.
Ouais. Ouais, c'est drôle.
C'est-à-dire que même le bookmaker, il était là. Dans, oui. Le, dans le truc, du coup, tu te dis, mais en fait, tu fais que des paris, enfin, que tous tes problèmes d'argent sont dans ta famille.
Ouais, c'est en chaud.
Fait.
C'est...
Et en plus, ça arrive assez tard dans le film, le
ouais.
Que tu comprennes qu'ils sont la même famille, et ça ajoute encore à ce côté insupportable du film, c'est-à-dire que le mec, tu comprends, tu te dis, ils sont de la même famille, ils ne le supportent plus, quoi. C'est-à-dire ouais. Que c'est, toutes les limites ont été dépassées depuis des kilomètres, en fait.
Exactement.
C'est irrattrapable. Et là, tu te dis vraiment, ce gars d'Adam Sandler, il est, tu peux rien en faire, quoi. Tu peux rien en faire. J'aimerais bien parler de cette scène d'intro qui est assez longue et que je trouve géniale. C'est la première scène dans la bijouterie où il y a les potes de Kevin Garnett qui viennent acheter des bijoux. Et en fait, je trouve cette scène vraiment bien parce que c'est un excès de gros plans. Tu te sens vraiment dans une étuve. En fait, tu te sens vraiment dans
oui.
Cette petite bijouterie. Comme il y a un jeu qui est vachement intelligent avec cette espèce de putain de porte aimantée là qui marche pas là. Il y a vraiment le ce talent des gars à utiliser tout leur environnement pour en faire le truc le plus stressant et le plus insupportable possible pour tout le monde. Et vraiment, il se passe pas grand-chose. Et là, tu vois encore le truc d'acting. Ils sont tous en train de te chaper un peu, de se vendre des bijoux. Ils montent des espèces de gremlins des années 80.
Avec les yeux.
Qui sont invendables, mais bon, il se dit qu'il va quand même les vendre. Et vraiment, j'ai adoré ces petites scènes. Parce que vraiment, on n'a pas. Il y a des moments où le film s'accélère, mais il y a quand même. Il y a des scènes qui sont vachement longues. Il y a des scènes qui durent 15-20 minutes où c'est vraiment. C'est très ramassé, c'est en huis clos pur. Et j'ai vraiment adoré cette scène d'ouverture.
Et en fait, je reviens sur le pari là. Donc les 40 000. Et je me dis, putain, moi si je gagne et que je fais un gros pari et qu'il y a 40 000, direct j'appelle le bookmaker et je vais chercher mon pognon, tu vois. Et lui. Il s'en rend même pas compte et c'est Arnaud qui vient lui dire plus tard. Je me dis, mais pourquoi ? En fait, peut-être qu'il aime que parier. Il s'en fout de gagner son pognon. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui est un peu
ça.
Chelou.
Oui, je vois ce que tu veux
soit
dire.
Soit c'est mal fait, soit c'est excellemment fait.
Ouais.
Mais tu vois ce que je veux dire ?
T'as raison parce que dans le sens où lui, il était heureux à partir du moment où il a vu
ouais.
Qu'il avait gagné.
I won.
Et d'ailleurs, voilà, il fait la fête et il rejoint sa maîtresse, etc. Et après, on passe à autre chose, ces autres problèmes. Il y a ce côté où, en fait, il aurait aimé, je pense, être un athlète
de basket,
physique,
hein, je crois.
De basket,
ouais.
En fait, parce que...
Dans son
c'est-à-dire
bureau,
qu'en gros,
y a, hein.
Si tu rates un panier, il n'y a pas de conséquences, en fait. Quand tu rates... Pour lui, perdre un pari, c'est rater un panier. Et, sauf qu'en fait, il doit de l'argent après.
Ouais.
Sauf que pour lui, il voulait juste que la vie continue comme un basketteur qui rate un panier et que normalement, du coup, on reprend la balle et je vais reprendre la balle à un moment. Sauf que au bout d'un moment, il emmagasine et plutôt il crée cette armée de gens qui lui veut du mal parce que, et depuis des années, on imagine, comme tu disais, Jean-Yves, c'est que, en fait, tu t'imagines du coup tout l'historique familial pour qu'on n'en puisse plus, en fait, de ce gars.
Et plus le film avance, et plus tu crois qu'il s'en sort, plus il y a d'autres gars qui sortent de sous terre là, qui avec des fausses Rolex, tu sais, genre.
Oui. Pourquoi tu m'as donné ça?
Ils viennent taper à sa vitre, au carreau de sa voiture. Enfin, c'est juste, tu t'en sors jamais quoi. Tu parlais de la maîtresse, je trouve que c'est Julia Fox, je crois, elle s'appelle. Elle joue vachement bien. La relation qui se crée avec elle est super fine, et le personnage amène super bien des choses, notamment vers la fin du film. Et d'ailleurs. C'est ouf quand même, parce que ce climax qui arrive à la fin, tu peux pas savoir ce qui va se passer jusqu'à vraiment vraiment la dernière seconde, parce que même, tu sais, quand il y a l'espèce de vieux mec tout vieux, tout fripé là, qui sort avec les sacs de cash, tu t'imagines pas du tout que la fille l'attend dans la voiture.
Ah, si, moi j'avais vu ça.
Et d'ailleurs voilà, donc la morale du film, c'est que voilà, c'est madame qui part avec l'argent, et c'est ça quoi, faut le dire. Mmh. On sait pas trop ce qu'elle va faire avec tout ça, mais voilà, le mec quand même, il est dans une espèce d'obsession, et c'est pour ça que je suis assez content d'avoir vu ce film qui marcherait bien en diptyque avec Succession, tu sais, sur l'argent, ouais, et la nature humaine quoi. C'est-à-dire que on voit. Et c'est assez intelligent, et je veux pas faire de la sociologie de comptoir, mais c'est super malin de raconter une histoire comme ça du point de vue de personnages qui se rapprochent quasiment du banditisme ou des petits arnaqueurs. On est dans un truc qui est très animal, en fait, tu sais, c'est-à-dire que dans les relations aux gens, c'est très primaire, en fait, tu vois.
Ouais, ouais.
Et il y a un truc vraiment de l'obsession de coller. T'as Kevin Garnett qui est complètement hypnotisé par son opale, t'as Adam Sandler qui est en recherche perpétuelle de toujours plus, toujours plus. Et ce film, il dit vraiment beaucoup, je trouve, sur l'argent, quasiment... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est très, très subtil, quoi, sur, ouais, l'obsession, quoi.
Et à votre avis, l'opale, elle valait vraiment 1 million d'euros? Alors c'est n'importe quoi, et lui,
et non,
il s'est
et non,
monté
en fait,
la
non,
tête tout
non,
seul.
Non, 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 parce que du coup, ça, j'y pensais tout à l'heure quand tu disais, c'est que quand il sort de la... Tu sais, il arrive à la salle d'enchères, ouais, il fait un scandale aux meufs, il dit « Vas-y, appelle-la, c'est pas bon. Mm-hmm. » Et en fait, il le dit très rapidement, il sort et dit « Bon, ok, je me suis peut-être emballé, peut-être que ça valait que 180 000. » Donc en fait, t'as envie de lui dire « Mais mec, arrête, ça fait une heure que tu nous fais croire que ça vaut 1 million $. » Et lui, il savait déjà plus ou moins... Donc ça lui a servi absolument à rien, tu vois. C'est-à-dire qu'il aurait pu direct la vendre 175 000 à Garnett au début, c'était réglé, parce que dans la scène d'intro, il lui dit, il a un sac, il lui dit, je te donne 170 000, tu vois. Il lui donne, tu vois.
C'est incroyable. Mais d'ailleurs, pour rebondir sur la technique et le fait que tu dises qu'il y a ce côté un peu animal, il filme en longue focale, c'est-à-dire qu'en gros, il filme de loin. Et du coup, ça fait très documentaire, ça fait très National Geographic, en fait. Putain, comme si on était en train de regarder des lions, des animaux dans la savane en train de faire leur truc, quoi. Et c'est vrai que c'est ça. Tout ce film, c'est un côté, laissez-moi vous montrer ce monde que vous ne connaissez pas, où l'homme est un loup pour l'homme, tu vois, que des choses comme ça. Et ça rajoute énormément de tension, justement, à tout le film.
Puis t'as envie de t'approcher, tu dis, je vais louper quelque chose quand c'est loin comme ça. T'as envie d'aller chercher. Non, il est bien foutu, il est prenant, en fait. Je l'ai vu avec un pote, et 2h15, et j'ai regardé 2h15 sans problème, quoi.
Oui.
Il est vraiment prenant comme film.
Je trouve que c'est un peu un film singulier pour Netflix, parce que, enfin, je sais pas,
ça vaut pas Bright, quand même.
Non, mais c'est très bien, ce film, il tombe très bien, parce que justement, Netflix, au niveau de leurs objectifs, ils sont en train de plafonner, c'est-à-dire que là, ils se rendent compte qu'ils vont pas pouvoir trop augmenter en abonnés. Il y a la concurrence qui arrive, il y a HBO Max qui arrive, il y a Disney, et là, je crois que ce film, pour eux, c'est le signal de dire, arrêtez de faire 40 000 films, faites-en genre juste 3, mais faites des très bons films, tu vois. Et là, c'est ce qui se passe. T'es avec des gens de qualité à tous les étages, c'est-à-dire que quand tu regardes le cast, technique, acteur, c'est le top du top. Et c'est ça la clé, en fait, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils comprennent que ça sert à rien de faire 1000 films, il faut en faire moins, c'est tout. Et que tu as gagné en qualité, tu vas rattraper des gens au passage.
Vous croyez qu'il va marcher, le film ?
Je voulais parler de le personnage qui joue la femme de Adam Sandler, qui est vachement bien, et du coup, pour ajouter sur ce truc animal de... Parce que voilà, c'est ça aussi, c'est qu'on revient... parce qu'on est dans encore ce milieu malfrat, on revient à des modèles un peu archaïques, tu sais, c'est-à-dire c'est le mec qui déborde de fric, c'est la femme qui est là pour l'argent, qui est là pour être rassurée, pour être protégée, etc. Et je trouve qu'elle joue vachement bien cette femme qui est emprisonnée dans la cage dorée, tu sais. C'est-à-dire, parce que ce qui est c'est vachement triste, je trouve, quand tu t'aperçois qu'elle sait très bien qu'il a une maîtresse, que l'appart, c'est, tout est OK, en fait, mais qu'elle lui dit à un moment... tu sais, il y a cette scène où c'est pathétique, il sort à poil de son coffre. Franchement, c'est, il est à poil alors qu'il assistait au spectacle de ses enfants. Et sa femme, elle le regarde, mais genre... mais c'est le blasé à mort, quoi, tu vois. C'est-à-dire de dire... elle lui dit d'ailleurs, elle lui dit, je suis là parce que j'ai pas le choix en fait, et que si ça tenait qu'à moi, je serais déjà parti. Et je trouve ça assez triste, tu vois, de c'est ce truc encore une fois de l'argent, de la cage dorée, de d'être prisonnier de tout ça, quoi. Que finalement, il y a plein de victimes collatérales, que lui, il fait un peu n'importe quoi, et on se rend compte que il y a plein de gens qui dépendent de tout ça et qui sont vraiment mais qui sont coincés, quoi.
Qui sont coincés et qui souffrent. Et, que... mais et ça, c'est dû à sa pulsion autodestructrice. C'est-à-dire que vraiment, au final, même sa maîtresse, elle l'aime vraiment. À aucun moment, il souhaite discuter avec quiconque, d'ailleurs.
Ouais, j'avoue, il est seul. Hein. Il n'a pas de potes.
Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il a été... je ne sais pas si tu as suivi. Parce que moi, quand j'ai vu ce film, j'ai de suite pensé, j'en ai discuté avec des potes, Oscar, hein, parce que clairement, Adam Sandler, performance oscarisable de ouf. Et il a gagné, je crois que c'est les Independence Spirit Awards, une espèce de cérémonie indépendante anti-César, où du coup, il a gagné un prix du meilleur acting. Il a d'ailleurs bien cassé du sucre sur le dos des Oscars. Et en fait, j'ai vraiment pensé, je me suis dit, et je repensais à la performance de Joaquin Phoenix sur le Joker... Et je crois que, en fait, sur une performance comme celle-là, c'est beaucoup... Enfin, je ne vais pas dire c'est mieux que Joker parce que je m'expose à des trucs, mais je trouve qu'on est tellement... On est sur du réalisme qui est tellement fort que je crois que je préfère une performance de Adam Sandler ici qu'une performance, tu vois, qui est trop, presque trop théâtrale, en fait, tu vois. Et ça mérite d'être dit. Je crois que vraiment, pour les gens qui aiment les grosses performances d'acteurs, il faut vraiment voir ce film.
Mais vous croyez qu'il va fonctionner? Moi, je pense pas.
Tu crois?
Ouais, parce que c'est des gens qui aiment plus ou moins les films qui vont y être tentés d'aller le voir. Ça peut pas être n'importe qui. Pour moi, c'est un film de trentenaire, quarantenaire. Des gens qui... C'est pas un film des gens qui ont 20
ans.
Mais
je crois que t'as raison. Je crois que t'as Netflix... raison. Mais en même temps, l'effet Netflix, parce que moi, j'en ai discuté avec des gens qui seraient pas du tout allés voir ce film au cinéma. Mais tu sais, t'es un dimanche soir, t'es devant Netflix et il y a marqué nouveauté, tu vois ça. Il y a marqué... Enfin, c'est vendeur, policier, suspense et tout. Et moi, j'ai discuté avec des gens qui l'ont vu un peu par hasard et qui ont été surpris positivement par le film.
Ouais, par hasard. Mais imagine 2h15, un dimanche soir, je suis pas sûr de le faire. Si... Et puis, c'est pas un blockbuster, donc je pense que ça va être un bon film qui va être caché dans Netflix, quoi.
Je pense qu'il va bénéficier d'un bon bouche à oreille, quand même, parce que moi, quand j'ai vu le film, j'avais envie d'en parler à tout le monde, quoi. Enfin, je sais pas, c'est tellement surprenant en termes de qualité pour Netflix, et c'est tellement tendu. Enfin, franchement, ils ont réussi à... Moi, j'étais quasiment à la fin, le climax où il y a les gars qui sont enfermés dans le bocal, dans sa bijouterie. Et en fait, moi, j'étais quasiment debout devant ma télé. En fait, je me disais, mais c'est pas possible. Jusqu'où ça va aller? Là, ça devient quasiment métaphorique. C'est-à-dire que moi, quand il y a Arnaud qui est en train de transpirer dans son bocal, pour moi, c'est le spectateur. Tu vois, pour moi, eux, c'est le spectateur qui est affligé par Adam Sandler et qui dit arrête, on n'en peut plus, ça suffit, stop, arrêtons les conneries. Et d'ailleurs, et il maîtrise pas tout, puisqu'évidemment, il y a un gars qui craque et qui lui met une balle dans la tête. Mais vraiment, ce truc de. Ils ont vraiment réussi à s'enfoncer dans la brèche du suspense et à tirer au maximum et à vraiment. Te faire sentir quasiment mal, quoi, parce que ce truc du... On parle d'un combiné, alors je parle à nos amis de friands d'Unibet et de Paris Sportif, mais un combiné, c'est-à-dire que parier 175 000 $ sur un truc qui est une triple probabilité, enfin, tu vois, c'est quand même c'est... un truc de malade, quoi. Ouais. C'est genre...
Même plus que ça, je crois.
Oui, parce qu'en plus, lui, c'était...
Il y avait rebond, shoot, trucs,
rebond, les points victoire, de Garnett et la victoire de Boston. Donc, trois... C'est-à-dire qu'ils jouent tout sur Garnett, il y a un côté... Et il y a ces moments qui sont vraiment super, super magnétiques avec Kevin Garnett. Il rentre au vestiaire et puis tu sais, il touche l'opale, il la regarde comme s'il était possédé par le truc. Enfin,
c'est golumien, en fait. Ouais. Tu sais, il y a ce côté chacun a son anneau, en fait.
Ouais. Mais je crois que dans le sport, il y a Djibril Cissé qui avait dit une fois, il a mis un triplé parce qu'il avait mangé poisson et viande le jour d'un match. Il a plus que manger poisson et viande le jour d'un match. Il y a beaucoup de superstitions. On met la chaussure gauche avant la chaussure droite. C'est comme ça. C'est tout le temps comme ça. Et dans les vestiaires, et je suis sûr et certain qu'ils ont tous des petits gris-gris, des petits.
Oui, et en plus d'auto-prophétisation aussi, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, le mec sent qu'il se sent mieux avec, et donc forcément, il va mieux jouer. Tout est d'une construction mentale, en fait, parce que effectivement, comme on disait, on sait toujours pas combien elle vaut cette opale, et qu'en fait, tout ce qui compte au final, c'est ce que tu crois, et c'est ce que tu dis aux autres, en fait.
Ben comme les Safdie Brothers, ce film, moi, je l'ai beaucoup aimé aussi parce que c'est un modèle de réussite artistique, parce que ce qu'ils disent ces gars, c'est il faut être patient. Pourquoi ? Parce que ce film, ça fait 10 ans qu'il est en écriture, ça fait 10 ans qu'il est en préparation.
Ah ouais ?
Adam Sandler avait déjà été approché par les Safdie Brothers il y a 10 ans, mais ils n'étaient pas assez connus pour l'avoir, il n'avait pas pris du coup. Et ils se sont dit, ok, on va faire quelques films, et après on retournera le voir parce que c'est lui qu'on veut, tu vois, c'est lui qu'on veut pour le film.
Incroyable.
Et du coup, je crois que c'est ça qu'il faut saluer, ce truc de la patience en tant qu'artiste, que... Voilà, il faut attendre. Ça va venir, mais il faut prendre son temps, il ne faut pas se précipiter.
Ouais. Et tout le contraire de Howard Ratner, quoi. Tout le contraire du protagoniste. Et d'ailleurs, juste pour dire, ils ont les Safdie Brothers et Adam Sandler, ils ont fait un court-métrage aussi qui est disponible sur YouTube, qui s'appelle Goldman versus Silverman, qui m'a stressé aussi parce que je l'ai vu après. Je l'ai vu après Uncut James. Mais en fait, ça m'a stressé juste parce que du coup, je revois Adam Sandler et il y a une concurrence en fait. C'est très très con. Il y a une concurrence entre des mimes, tu sais, des mimes qui sont argentés et dorés à Times Square.
Okay.
Et c'est juste encore, tu vois, ce côté vraiment, on veut suivre des propriétaires auto-entrepreneurs qui doivent gagner de l'argent et dans un monde où tu sais pas ce qui va se passer. Et c'est vraiment, vraiment stressant quoi. Voilà. Et je recommande, c'est gratuit sur YouTube.
Cool.
Est-ce que vous avez aimé la musique de ce film ? Moi, j'ai trouvé ça pas mal. C'était assez. Il y avait un bon rythme. C'était le film s'arrête jamais. Il y avait un autre truc dont je voulais parler. Ah oui, il y a le truc qui est insupportable aussi, c'est l'histoire, tout le truc qui tourne autour de la bague des Celtics de Kevin Garnett. Déjà, qu'est-ce qu'il fout à lui donner ? Tu sais, c'est pas assez ahurissant de le voir. Tu sais, Kevin, il lui montre l'opale qui arrive d'Afrique cachée dans un poisson. Enfin, c'est assez rocambolesque comment cette opale arrive dans son bureau. Et genre, il lui donne, tu sais, il y a Kevin Garnett, il lui dit, vas-y, je peux la garder jusqu'à demain. Parce que ça prend vachement de place dans le film. C'est-à-dire qu'il y a tout un... Je pense qu'il y a bien 45 minutes où tu crois que, en fait, Kevin Garnett, il le fait marcher. On sent qu'il y a un moment, il va jamais la récupérer, en fait. Enfin, je sais pas comment vous avez vu ça. Mais il y a ce truc de la bague. Où tu sais, genre tout va être réglé, et là tu dis, ah non, j'ai laissé la bague chez le prêteur sur gage, machin. C'est juste intenable quoi.
Ou même la porte, le sas qui ne s'ouvre pas.
Ouais.
Tu sais, et en fait, c'est étonnant parce que tu te dis, ah enfin, ok, il est là, etc. Et il y arrive à ouvrir la porte, ouais. mais putain, pendant 3 minutes, t'es là, putain, merde, il va se barrer.
Il va se barrer, il va se barrer. Et il y a des. Qu'est-ce que vous avez pensé de la scène d'intro, de comment c'est démarre le film ? Donc, Ellie a rappelé qu'il y avait un petit fondu enchaîné, tout de poésie, où tu rentres dans des diamants et tu finis dans un trou de balle. Mais avant ça, on est dans une mine en Afrique,
ouais.
Je crois que c'est en Éthiopie, je ne sais pas si je me trompe.
Oui, tout à fait, ouais.
Et il y a des gens qui ont dit que ça a rappelé l'exorciste. Tu sais, il y a une scène au début de l'exorciste où ils trouvent un truc dans une mine un peu comme ça, ou dans des. Voilà, il y a Jurassic Park aussi, tu sais, où ils tapent dans la
mais
mine,
oui.
Ils sortent le. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène d'intro ?
The Thing, avec le côté genre en Antarctique, tu sais, on trouve un autre truc, etc. Et non, mais c'était étrange, ouais. Pour moi, c'était vraiment. Un générique du début des années 80, quoi. Ouais. Le côté, ça commence vraiment ailleurs, c'est pour expliquer que la portée de ce film est encore plus grande. Et c'est vrai, parce que du coup, tout le sujet du film, et on le voit à la fin avec cette discussion d'ailleurs avec Kevin Garnett, c'est le côté, en fait, tout le capitalisme Enfin, si tu commences à tirer le fil du capitalisme, ben ça, ben, t'es obligé d'aller jusqu'en Éthiopie, en fait. Oui, t'es obligé d'aller jusqu'à quelqu'un qui va prendre trop peu d'argent pour ce que ça vaut vraiment. Mmh, mmh. Et c'est bien pensé, en fait.
Il te le montre au début, il y a la jambe qui est pétée et tout ça. Oui. Tu dis, eux, ils font ça pour choper une pierre qu'ils envoient ensuite à New York. Et lui, il en fait n'importe quoi, quoi. Tu dis, c'est vrai, il la prête, il la joue, il veut la vendre. Enfin, c'est... Ouais, je pense qu'il y a peut-être un petit truc politique derrière. Mais en même temps, c'est du connu, mais c'est bien de le rappeler de temps en temps, quoi. Et c'est marrant de passer entre les Éthiopiens et lui aux États-Unis, de passer par le trou du cul. Je pense qu'il y a quelque chose. Mmh. Dès le début, il te montre que ce mec-là, il est pas sain, il est bizarre. Et je pense que si on creusait un petit peu, si on prenait le temps, pourquoi on passe par son trou du cul avant d'arriver à New York?
Et une mine, d'ailleurs, sur le côté mondialisation, une mine qui est d'ailleurs gérée par des Asiatiques. Tu sais, il y a les boss asiatiques qui arrivent. Il y a tout un côté ultra-capitalisme, ultra-mondialisé direct, quoi.
Et il y a le miroir de ça à la toute fin, où pour le coup, c'est, on va dire, un peu plus poétique, parce qu'on rentre dans...
un trou de balle.
On rentre dans le trou de balle, pardon, c'est vrai. Mais ça suit sur, en gros, des trucs de diamants. Au final, pour finir sur les étoiles, parce que effectivement il y avait cette phrase à un moment qu'on avait pu entendre: quand on regarde l'opale, on peut voir toutes les étoiles,
parce que tout à l'heure tu parlais du McDo et tant que ça y est, c'est trop dur. Et à un moment, il y a la maîtresse du personnage de Adam Sandler qui, genre, elle est à deux doigts de coucher avec The Weeknd dans un placard pendant un concert. Et tu sais, il lui dit mais pourquoi tu me fais ça? Et en fait, elle lui dit I'm trying but it's too hard, tu sais. Et c'est ça, en fait, ce film, ça dit aussi ce truc du capitalisme de j'essaye mais c'est vraiment trop dur, quoi. Tu sais, j'arrive pas à me retenir, quoi. Il y a ce côté et ça rejoint ce que tu disais du McDo, de bah ouais, le McDo est là, je le prends, quoi, parce que c'est trop dur de résister. Et il y a ce fil rouge dans le film aussi de dire à aucun moment, personne s'arrête pour réfléchir deux secondes, parce qu'on est en permanence en train de céder à la tentation tout le temps, quoi.
Ouais, ce truc de rapidité tout le temps, dans l'instant, tout le temps. Et puis en même temps, lui, il n'a pas le temps de s'arrêter, parce qu'à chaque fois qu'il s'arrête, il y a quelqu'un qui lui demande de l'argent, donc il continue à marcher.
Ce film dit aussi, il ne faut jamais s'arrêter dans la rue, il faut toujours marcher, tu vois. Il ne faut jamais s'arrêter.
Non, c'est vrai, dès qu'il a un moment tranquille, il est au téléphone en train de crier sur quelqu'un, ou il se déplace pour arriver, il a pas un moment.
Ouais. Mais c'est juste... parce qu'il veut pas se le créer, en fait. Ouais, mais... c'est ça qui est intéressant.
Je sais pas.
Il est aussi responsable de cette vie-là, en fait.
Il y a une scène, il y a une scène que j'ai vachement aimée, parce que je l'ai trouvée vraiment ultra maîtrisée et ultra sensuelle. C'est la scène où il est dans un placard, il texte sa meuf. Et tu sais, il y a un décalage, en fait. Il lui dit, genre, qu'est-ce que tu portes et tout. Et pendant qu'il lui envoie les messages, il la voit sur le canapé en train de prendre les photos, etc. Et c'est vachement bien, je trouve, parce que t'as raison. Je crois vraiment que, parce qu'on peut avoir la discussion, on peut avoir le débat, mais je suis persuadé que même si en apparence elle est à fond gold digger, c'est vraiment la meuf qui est là pour le blé, être dans la bijouterie et tout, ben il y a deux trois scènes où, en fait, je pense qu'elle l'aime vraiment, en fait.
Il y a quelque chose d'assez
parce que du coup cette scène, quand il est dans le placard, moi je me suis dit, ah ouais, il la teste, et en fait tu te dis, elle va lui mentir, elle va lui dire tu vois, et en fait non, elle est vachement honnête. Il lui donne quand même
à l'arrivée,
il lui donne quand même 170 000 $ à travers une fenêtre. Elle disparaît dans la nature. C'est insoutenable. Elle est genre la meuf toute seule dans un casino avec des rapaces partout. Tu te dis, mais elle va jamais s'en sortir, c'est pas possible. Et en fait,
qu'en fait c'est la seule. parce qu'au final c'est la seule, parce qu'elle est un peu côté innocente, et aussi parce qu'elle a, elle discute, mais elle demande de l'aide, en fait, tu vois.
Oui.
Ce que lui ne fait jamais. Lui, il demande juste des délais pour rembourser de l'argent. Il demande jamais. Alors que elle est là, tu vois, elle fait confiance à d'autres personnes.
Grave, complètement. Mais même quand la femme, là, quand lui, il se cache dans l'appartement et qu'il y a sa maîtresse qui va arriver, on se dit, elle va pas arriver toute seule.
Oui, exactement. C'est vrai
qu'ils se font tout le temps ça. Et après, ils se cachent et ils lui envoient des messages. On se dit, il va y avoir quelque chose. Et en fait, non, ils te font, ça pourrait, et non. Ça va, et non. Ouais, et ils le font super bien.
où on te fait penser le pire de certains personnages, et en fait, non, c'est pas ce que tu penses.
Elle est assez complexe, elle est marrante, cette fille, ce personnage, parce qu'elle se fait grave, elle se fait tatouer son nom,
ouais.
Mignon, mais sur le cul. Ouais, voilà, c'est vraiment tout ça. Elle, c'est vraiment ça, quoi.
Mais ça rejoint le truc, ce truc animal, en fait, de elle le maîtrise. Tu sais, il y a cette scène où la première fois que tu vois cette meuf, tu sais, il rentre et genre. Ça part trop en embrouille, elle dit vas-y, t'as pas envie de te disputer, viens faire un câlin, ça va aller. Elle le maîtrise totalement par cet aspect affectif en permanence, tu sais, ce truc animal de cul, qui est vraiment vachement bien, vachement juste en fait, par rapport au personnage d'Adam Sandler, quoi.
Tu peux pas me résister.
D'autres choses à rajouter sur Uncut Gems? Je pense que. On a bien fait le tour, vraiment. Moi, je recommande quand même. C'est sur Netflix déjà. Donc, moi, la facilité déjà de trouver ce film, ce serait vraiment dommage de regarder La Casa de Papel saison 3 alors qu'il y a James.
Et pour le coup, parce que j'ai entendu, je sais pas si t'as entendu le film Junk dessus que moi j'ai écouté qui est assez intéressant. Ce film est sorti au cinéma et je crois que ce film j'aurais bien aimé aussi le voir au ciné, tu vois. C'est-à-dire avec un son, parce qu'apparemment il y avait ces discussions de le son, le film est oppressant et du coup ce film en cinéma avec un son un peu fort, ça peut vraiment te mettre mal à l'aise, quoi. Tu vois, t'es vraiment dans une situation vraiment difficile à vivre et ça doit encore ajouter à la portée du film. Donc ouais, franchement, à recommander. C'est peut-être pas pour se détester, c'est-à-dire que si vous êtes dans une dimension où vous voulez vous détendre, c'est peut-être pas un film détente. Peut-être ça risque plus de vous énerver, genre un peu comme quand t'as bu genre 3-4 cafés de trop, tu vois, t'es un peu trop énervé. Donc ouais, peut-être à recommander sur un moment où peut-être un samedi soir ou mais voilà.
Et c'est marrant ce côté oppressant. Moi, je trouvais aussi en premier quand j'ai fini le film, je me suis dit c'est un peu bordélique quand même. Et je pense que c'est voulu.
Oui, totalement.
C'est bien fait. Mais il y a un truc où. Putain, tu sais pas où donner de la tête. Tu dis. Et puis ils te mettent plein de débuts de choses qui finissent pas. Tu dis. Ah!
C'est qu'il y a ce côté casse-bas en fait. Tu sais, le côté genre vraiment le district, le Diamond District, c'est tout et n'importe quoi.
Ça rentre, ça sort. Oui, côté casse-bas, tu sais, ouais.
Alors que c'est con, mais c'est des lignes droites. Mais t'as l'impression que c'est un dédale tellement tout est présenté de manière chaotique. Bref. Recommande énormément, donc allez vous régaler en regardant Uncut Gems. Est-ce que vous avez vu d'autres films récemment, ou des séries, ou des choses dont vous voudriez parler?
J'ai regardé Paris-Lyon hier et c'était pas mal, hein. Mais c'est trop tard, c'est passé. Non, bah 1917, franchement, faut aller le voir, hein. La musique est ouf, la façon de filmer est ouf, après le scénar, il se tient. Il se tient, c'est rien d'exceptionnel, mais ça se tient. Il y a des scènes qui sont vraiment très très jolies. Et au ciné, ça t'envoie toujours plus plein la gueule, quoi. Donc je pense que c'est un truc à aller voir au ciné.
Donc,
aussi.
Film de spectacle, en fait, en gros, si on veut voir 1917.
Ouais. Ouais, et puis. Ouais, il y a quand même quelques bonnes petites scènes, quoi. Franchement, si tu me dis demain on y retourne, moi je reviens le voir.
Ah ouais.
Le voir. Okay. Ouais.
Jean-Yves.
Alors moi je suis sur du Revisionnage en film en préparation pour un truc dur, hein, qui arrive bientôt, mais on est en train de vous préparer un petit épisode de top 10 de la décennie, donc en vue de ce top je me suis rematé quelques films dont Manchester by the Sea qui est dispo sur Netflix, qui est une tuerie, donc voilà, j'ai revu ça. Et après je suis beaucoup sur des séries, deux choses. Je me suis réabonné à Canal+ juste pour me mater la saison 3 de Platane, qui est genre trop marrante, quoi. Genre t'as parlé de Laurent Lafitte tout à l'heure, mais il y a un épisode avec Laurent Lafitte où ils expliquent que Laurent Lafitte, il a du succès parce qu'en fait, il arrive à hypnotiser les producteurs pour avoir zéro. Enfin, tu vois, c'est complètement
con. Oh, ça a l'air génial.
Dans son père, c'est genre Roland McDan. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, voilà.
Ouais,
franchement,
j'ai hâte de voir ça.
La saison 3 de Platane, ça reste l'esprit Platane, l'esprit Éric Judor. Il est vraiment bon parce qu'il arrive à... Ben, il est marrant, quoi. Il est marrant, c'est bien écrit, c'est bien joué. Donc vraiment, la saison 3 de Platane, c'est une pépite. On a commencé avec ma wife là une pépite de série HBO qui s'appelle The Outsider.
C'est génial.
De adaptation, donc gros team up, dream team, puisque c'est de la team de The Night Of, et c'est une adaptation de Stephen King. Donc là, on s'est fait 2-3 épisodes. Je suis complètement hypnotisé par cette série, donc je vous la conseille vraiment, une ambiance de folie. Donc voilà, pour moi, ce sera plus des séries en ce moment.
Ok. Eh ben, je suis pareil, là, moi, je suis sur The Outsider, série HBO, vraiment géniale.
Ouais.
Ben Mendelsohn, qu'on avait pu voir dans la série Bloodline, qui est sur,
Et
Netflix.
Dark Knight aussi.
Et, ouais, exactement. Et Jason Bateman, voilà. De toute façon, les séries HBO, on peut y aller, j'allais dire les yeux fermés, non, c'est quand même mieux de les regarder les yeux ouverts. mais on est tranquille, c'est-à-dire il y a une qualité de production qui fait que ce soit au niveau de la réalisation, du jeu d'acteur, etc. C'est pas les séries qui me font peur où je me dis tiens au bout du troisième épisode ça va plus être bien écrit, c'est vraiment vous êtes safe quoi. Il y a ça, il y a aussi un autre truc que je commence à regarder, c'est une série Star Trek sur Amazon avec Patrick Stewart, ça s'appelle Picard en fait.
Avec
en
Jeff gros... Bezos.
C'est Picard, ça parle de surgelé. Non. Et en gros, c'est parce que voilà, Patrick Stewart jouait dans une vieille série, Star Trek Next Generation, où il jouait donc le commandant Jean-Luc Picard, qui était un commandant de l'Enterprise, etc. Moi, je connais pas du tout Star Trek, je regardais pas du tout les séries, j'ai jamais été fan, j'ai toujours été beaucoup plus fan de Star Wars, mais à partir des films de J.J. Abrams, j'étais un peu intéressé, voilà, en tant que geek, j'ai quelques connaissances sur le sujet. Et ça m'a fait regarder d'abord la série Netflix, Star Trek Discovery, que j'ai trouvé très bien. C'était une bonne série de science-fiction fantasy. Et du coup, chose intéressante pour une franchise, avoir deux séries différentes sur deux plateformes différentes. Et donc là, ils ont fait Star Trek Picard, où c'est très intéressant parce qu'on voit vraiment un protagoniste octogénaire. Et j'adore ça, parce que du coup, tu le vois vraiment. C'est-à-dire que dès qu'il doit courir même pas 10 mètres, le personnage est essoufflé. Et c'est trop cool parce que tu te dis, bon, ok, cette série ne va pas du tout être basée sur de l'action. Il y a des choses intelligentes, il y a une réflexion sur l'intelligence artificielle, des choses comme ça. Donc c'est vrai que je me dis, tiens, ça va peut-être aller sur un peu un simili Blade Runner, mais dans un univers space opéra. Donc voilà, moi en ce moment je regarde ça et je profite de ça, et du coup ça m'a fait regarder et ça m'a fait m'intéresser au film Star Trek, mais au film des années 90 avec notamment, moi je les regarde pas du tout dans l'ordre, là le premier que j'ai regardé c'était Star Trek Generations, film de 1994, où en fait on peut voir et Patrick Stewart et William Shatner, alors que dans la timeline en fait de Star Trek, c'est il y a 80 ans de différence, mais grâce à des petits voyages dans le temps ou des choses comme ça, on peut voir les deux. Bon, je vous avoue que ce film-là, c'est pas un film extraordinaire, mais c'était assez plaisant de voir un film de science-fiction des années 90 d'un monde que je ne connaissais pas, qui est un peu tourné en mode film des années 60. C'est-à-dire que tu vois, il y a le côté planète interdite, avec les décors un peu carton-pâte, des choses comme ça. Et je pense en regarder d'autres, notamment certains qui sont par contre vraiment même applaudis, comme par exemple, je sais que Star Trek 2, ils en parlent souvent, The Wrath of Khan. Tout le monde en parle, enfin les Américains en tout cas disent que c'est vraiment un bon film, donc je vais voir si c'est vraiment un bon film ou si c'est encore une fois parce que ce sont des fans de Star Trek qui regardent ça, et je vous dirai ce que j'en pense du coup la prochaine fois. Voilà. Du coup on peut vous dire et vous rappeler de vous abonner au podcast et de faire abonner d'autres personnes au podcast, voilà, si vous connaissez des gens qui aiment le cinéma, et ben ils devraient
et de leur promettre totalement... des cadeaux comme Areski promet des Blu-ray en permanence aux
oui et j'en ai envoyé un à qui si merde je sais plus, mais là j'ai les quelques commentaires. Mais c'est trop cool, il y a Lucidouce55 qui nous a mis 5 étoiles et qui nous a dit génial, la meilleure discussion sur le cinéma dans les podcasts, tellement sincère, ça fait vraiment du bien, trop cool.
C'est bon ça. Alors je vous confirme, pour être en liaison vidéo, qu'il y a encore beaucoup de Blu-ray sur les étagères d'Areski qu'il peut envoyer, il y en a beaucoup, donc n'hésitez pas à nous mettre des 5 étoiles.
Non, moi j'ai fait le déménagement vraiment, de mon père, j'ai retrouvé des DVD, je peux les envoyer si vous voulez.
Ah bah,
il y
en
a
bien.
Plein. plein.
Parfait. Comme ça. Donc voilà. Alors n'hésitez pas, vous mettez un commentaire et vous nous dites envoyez-moi un DVD, un Blu-ray. Après, sur fin de séance @gmail.com, vous nous envoyez votre adresse. Je les envoie sans problème. Mounia qui nous disent vive le ciné, vive fin de séance. Ah oui, VVP qui nous dit écoutez 16 épisodes en 2 semaines.
What?
Je revisite mes films préférés des dernières années avec les critiques du podcast. Je recommande énormément. Et puis qui donne l'ordre d'écouter l'épisode du Joker, c'est vraiment très intéressant et drôle. Et effectivement, allez écouter cet épisode avec.
Effectivement, c'était très intéressant. Et drôle.
Continuez à nous binge écouter. On est ravis et on prépare. On vous retrouvera bientôt avec un épisode top 10 décennie qui, à mon avis, va être assez fou. Pour l'instant, moi, c'est plus un top 28 parce que j'arrive pas à faire de choix.
C'est difficile.
Et voilà, on vous dit à très vite.
Allez, bisous à tous.
Ciao.
Ah, est-ce que tu veux qu'on fasse ta promo, Eli Houri? Où est-ce qu'on peut te retrouver?
Sur Paris, sur les meilleures scènes parisiennes. Enfin, mais à 16h, quoi.
Sur les meilleurs plateaux de stand-up parisien à 16h. Donc, ceux qui ne travaillent pas peuvent aller rigoler avec Eli Houri. Eh ben, très bien.
Merci.
Allez, ciao.
Ciao.
Bye.